On va poursuivre dans notre parcours de lecture, de réflexion dans l'Épître aux Hébreux. On a fait plus qu'une halte au chapitre 11 et on continue toujours dans cette grosse halte du chapitre 11 qui nous invite à imiter la foi de personnes ordinaires mais qui, avec Dieu, ont eu une attitude de foi remarquable. Et parmi elles, les personnes qui sont citées, il y a de grands noms, dont celui de Samson, que nous allons voir ce matin. Et c'est une belle occasion, parce que c'est un personnage qui est très connu, un peu mal compris, ou très mal compris, et on verra prochainement, dimanche prochain, Dieu voulant, Jephté aussi, personnage de la Bible que l'on connaît peut-être un peu moins. Ce qui nous conduit à nous arrêter là, c'est Hébreux chapitre 11, verset 31. Et on l'a déjà lu, on va le relire encore à nouveau. Hein? Même 32. 32 à 34. Et que dirais-je encore? Le temps me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Comme je le disais la dernière fois, il semble qu'il y ait eu citation de ces personnages bibliques, d'ailleurs pas du tout dans un ordre chronologique, hein, parce qu'ils étaient très célèbres dans l'inconscient collectif des Juifs. Alors Samson, quand on parle de Samson, à quoi ça nous fait penser? Ouais, comme moi, hein, des grands cheveux comme moi. Hein, quelqu'un qui a de la force. Hein, et quoi d'autre? Quelqu'un qui est un peu bizarre. Hein. Oui, alors certainement mal compris. Hein, ce qui ressort, c'est une sorte de grosse brute conduite par ses hormones. Hein. Mais est-ce que nous devons adhérer à cette idée-là? Le verset qu'on vient de lire juste avant nous dit totalement l'inverse. Samson est un exemple de foi inspirant pour nous maintenant, comme ça l'a été pour les premiers lecteurs de l'Épître aux Hébreux. Qu'est-ce que je vais retenir de Samson? Pas la coupe de cheveux, ça c'est sûr. Hein? Pas la force, on n'aura jamais la force de Samson. Qu'est-ce que je vais retenir de Samson? Petit rappel, quand on voit un texte de l'Ancien Testament, il faut toujours le comprendre à la lumière de la réalisation de Christ à la croix. C'est-à-dire par les paroles de Jésus ou ce qui a été écrit à la suite dans les Épîtres. Éphésiens 2:20 nous invite dans cette idée-là. Donc je peux comprendre l'Ancien Testament à la lumière des Épîtres et des paroles de Jésus. Mais ce qu'il y a de facile pour Samson, c'est que, en fait, c'est hyper simple de voir que c'est un homme de foi. Et tout simplement, en lisant les trois chapitres de la Bible qui lui sont consacrés, dans le livre des Juges, c'est les chapitres 13 à 16, vous pouvez les rechercher gentiment, on ne lira pas tout, parce qu'on n'aurait pas le temps, mais vous pourrez le lire à la maison, c'est super intéressant. Et en fait, ces trois chapitres nous plongent dans quatre étapes de la vie de Samson. Sa naissance, son mariage, son action à Gaza et ce qui s'est passé avec Delila. Donc quatre étapes dans lesquelles on va pouvoir justement voir des choses exceptionnelles. Et la période dans laquelle se déroule la vie de Samson est celle des juges. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attitude d'Israël, comme presque dans tout l'Ancien Testament, n'est pas terrible. Les exploits de la conquête de Canaan, comme à Jéricho, sous la conduite de Josué, devait être terminé par les tribus. Et au lieu de cela, ils ont préféré l'assimilation et sont tombés dans l'idolâtrie des peuplades avec lesquelles ils se sont assimilés. Et l'Éternel, tenant les termes du contrat qu'il avait souscrit avec Israël, les confronte au jugement de leur attitude d'abandon de Dieu et d'idolâtrie. Et pendant 400 ans, on a des cycles qui se répètent, où Israël tombe dans l'idolâtrie, ce qui contient un jugement. Ce jugement se fait tout simplement par l'oppression des nations cananéennes et autres qui viennent et qui oppriment le peuple d'Israël. Au bout d'un moment, Israël crie à l'Éternel, il serait temps, hein, et l'Éternel suscite un juge. Et c'est au travers de ce juge que l'Éternel occasionne une libération de l'oppression, et il y a un temps de paix du temps de la vie du juge. Et quand on lit le livre des juges, les trois premiers grands juges, on pourrait dire, ben on a globalement ce même cycle qui se répète. Et puis, plus on avance, plus ça se dégrade. Ça commence à se dégrader avec Gédéon, avec Jephté. Et au final, on arrive à Samson, qui est le dernier grand juge pour lequel on a plus d'informations sur son action et sur sa vie. Et globalement, on voit que le livre des juges est une sorte de décrescendo. Alors la fin du livre des juges, c'est le chaos total qui révèle l'attitude d'Israël. Et il y a ce verset qui revient. « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. » Et surtout n'importe quoi. Alors arrive l'histoire de Samson, qui clôture cette grande série des grands juges avec une manifestation sublime, exceptionnelle de Dieu. Dieu intervient spécialement par Samson, dans un temps troublé. Et dans la Bible, on voit ces moments où Israël est vraiment totalement à l'inverse de ce que veut Dieu, et des personnages exceptionnels apparaissent. Deux choses sont à retenir pour bien comprendre la mission de Samson. Samson va incarner les dégâts de l'assimilation. Quand le peuple d'Israël crée des liens avec les autres nations, ça occasionne des dégâts. Et Samson va le montrer au travers de sa vie. Ça ne fonctionne pas. Ça crée le chaos, ça crée la traîtrise, ça crée plutôt la peur plutôt que l'esprit de conquête. Et ça engage à rechercher le confort et surtout pas faire de vagues. Samson va le montrer, le démontrer au travers de sa vie. Et deuxièmement, sa mission n'est pas de délivrer Israël, mais de commencer à délivrer Israël. C'est l'ange de l'Éternel qui le dit clairement. C'est le premier verset qu'on va voir dans le chapitre des Juges, au verset 13, au chapitre 13, verset 5. Il est dit « Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Et la fin de cette domination sera peut-être un peu plus évidente avec David. On connaît David et Goliath. Goliath était un Philistin. Et avec Salomon. Alors, la première partie de la vie de Samson fait partie des cinq naissances exceptionnelles de la Bible. Isaac, on est d'accord ? Samuel ? Jean-Baptiste ? Jésus ? Et Samson. La naissance de Samson est la deuxième naissance de ce type quand on lit la Bible à la suite. Imaginez, cette naissance est du même type que celle d'Isaac. Imaginez dans l'inconscient, dans la pensée des personnes du peuple d'Israël, quel écho ça devait avoir. Tout comme Abraham, le père des Hébreux, a eu le début de sa postérité voulu par Dieu, par Isaac, d'une manière extraordinaire, là aussi, il y a quelqu'un que Dieu désire de la même manière et pour une mission d'importance. En effet, la maman de Samson est stérile. Et c'est l'ange de l'Éternel qui intervient deux fois pour préciser qu'elle va mettre, elle va avoir un enfant et que cet enfant va avoir une mission précise. L'ange de l'Éternel qui l'informe. L'ange de l'Éternel, d'après ce que l'on peut comprendre, serait une manifestation spéciale de la deuxième personne de Dieu qui incarnait plus tard donnera Jésus. La mission et la spécificité de cet enfant mis à part pour Dieu et annoncé avant même qu'il naisse. Il est consacré dès le ventre de sa mère et le signe de sa consécration sera visible parce que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et je vous invite à lire Juge 13, chapitre 3 à 5. C'est l'ange de l'Éternel qui parle. « Te voici stérile, sans enfant. Tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. Maintenant, fais bien attention de ne pas boire ni vin, ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. » Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. Notons bien ici que la force de Samson n'est pas dans les cheveux. Ses cheveux sont le signe comme quoi il est consacré, c'est-à-dire mis à part, lié à Dieu, il est l'envoyé de Dieu, ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Si sa tête est rasée, il décide alors de montrer qu'il n'est plus consacré et qu'il devient un juif comme un autre. Ce chapitre 13, il faut vraiment que vous le lisiez, hein, qui parle de sa naissance est extraordinaire. Et il se termine par des versets très très importants. Regardez au verset 24 et 25 de Juges chapitre 13. La femme mit au monde un fils et l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action Manaré Dan entre Tsoréa et Eshtaol. Il est béni de Dieu et surtout son action n'est pas guidée par ses hormones. Son action est guidée par le Saint-Esprit. C'est sous cette supervision qu'il va accomplir d'ailleurs sa première mission. Et c'est là, le deuxième épisode que l'on connaît de Samson, c'est son mariage. Samson va se marier avec une Philistine pour montrer le chaos qui ressort intérieurement et extérieurement d'un tel mariage. Tant pour et entre les Philistins que pour et entre le peuple d'Israël. Dieu avait formellement interdit les mariages avec les autres nations. Pas qu'ils soient racistes, mais parce qu'il n'y a pas d'unité spirituelle. Et on voit par exemple dans la Bible que Ruth ou Rahab, qui n'étaient pas des Israélites, ont été inclus dans la généalogie de Christ. Mais Ruth et Rahab ont choisi l'Éternel. On voit donc bien que le problème n'est pas un problème de racisme, mais un problème d'unité spirituelle. Donc, Samson va montrer tous les dégâts d'une union où il n'y a pas cette unité spirituelle. Juge 14, verset 4, qui nous le dit. Regardez, Juge 14, verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de Samson. Ah, de l'Éternel. Samson cherchait en effet une occasion de dispute avec les Philistins. Le chaos issu de ce mariage commence dès les noces. Sa jeune femme trahit Samson pour donner la réponse d'une énigme à ses concitoyens philistins. Son cœur est tourné vers les Philistins, pas vers son mari. Philistins d'ailleurs très sympathiques qui lui font pression de éventuellement la brûler, elle et, tout, et son père, si elle ne donne pas la bonne réponse. S'ensuit du chaos. Un chaos, 30 personnes sont exécutées, distance entre les époux, finalement la jeune épouse est donnée à un autre. Conséquence, Samson ravage par incendie les récoltes philistines. Les Philistins sont fous et furieux et brûlent l'épouse de Samson et son père. Samson se venge en pourfendant les incendiaires. Et les Philistins, qui avaient un peu l'ascendant sur les tribus séparées et individuelles, mécontents évidemment de l'action de Samson, montent en Israël, à la tribu de Juda, pour demander que Samson lui soit livré. Et au lieu que le peuple d'Israël fasse bloc derrière Samson, et bien ils envoient 3000 soldats, juste 3000, pour livrer Samson. Vous voyez l'attitude d'Israël avec l'assimilation? Alors Samson, sous la conduite de l'esprit, vous pourrez le vérifier en lisant le texte, élimine et détache les liens qui lui sont qui lui ont été mis pour être livrés aux Philistins, et élimine 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Fort sympathique. Lisez le chapitre 14 pour voir que tout comme le reste des autres actions de Samson sont guidées par l'Esprit de Dieu. Ça n'est pas un fou furieux qui a trop de force et qui a trop d'hormones, mais c'est quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu pour montrer les dégâts de l'assimilation. La différence spirituelle génère une lutte, et finalement, c'est des dégâts des deux côtés qu'on a pu relever. Mais surtout pour Israël, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est la peur, la préférence d'un semblant de confort, surtout pas faire de remous, qui mène à la trahison. Et on va pouvoir particulièrement s'en rendre compte dans le troisième épisode qui concerne la ville de Gaza et qui en dit long justement sur l'apathie d'Israël au lieu de suivre l'Éternel dans son ordre de conquête. Ordre de conquête qui avait été donné du temps de Josué, qui est rappelé au début du livre des Juges d'ailleurs. Et on va lire pour cela, si vous voulez bien, le chapitre 16 des versets 1 jusqu'au verset 3. Samson partit pour Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. On dit aux habitants de Gaza, « Samson est arrivé ici. » Ils l'encerclèrent et se tinrent toute la nuit en embuscade à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, se disant, « Au lever du jour, nous le tuerons. » Samson resta couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, attrapa les battants de la porte de la ville ainsi que les deux montants, arracha les barres, les mit sur ses épaules et les transporta au sommet de la montagne qui fait face à Hébron. 1000 mètres de dénivelé, 60 kilomètres. C'en dit long de la force que Dieu avait donnée à Samson. À quoi ça vous fait penser quand on lit ce texte? À quoi ça vous fait penser? Une ville ennemie d'importance, quelqu'un qui passe la nuit chez une prostituée, qui agit de nuit, un acte spectaculaire qui détruit l'intégrité d'une muraille. Ça nous fait penser à Jéricho. Jéricho, évidemment, hein. Jéricho, première ville des Cananéens, verrou de Canaan. En gagnant Jéricho, ça a été le domino qui a permis l'invasion de Canaan. Gaza est la ville d'importance chez les Philistins face à la tribu de Juda. C'est le verrou du territoire des Philistins. Et on se rappelle de la mission de Samson de commencer à la délivrance. Il y a le même schéma. Refuge chez une prostituée. Comme pour les espions hébreux en repérage pour la bataille de Jéricho, hein, qui sont chérables à prostituer, parce que c'est le seul endroit dans une ville où on peut faire une halte d'une manière non officielle. Samson fait de même. Les espions se sont éclipsés de nuit de Jéricho. Et là, Samson agit de nuit. L'intégrité de Jéricho, de la muraille de Jéricho, a été détruite d'une manière providentielle. De la même manière, l'intégrité de Gaza est défaite parce qu'elle n'a plus de porte. Et par cet acte, on voit que clairement, Dieu a donné une force hors du commun à Samson pour détruire cette intégrité en prenant les portes de la ville. Si la ville est ouverte, ben elle tombe. Et c'est tout le territoire qui tombe. En exhibant les portes depuis cette haute montagne qui rayonne là, autour d'une bonne partie d'Israël, Samson exprime quelque chose de très fort. Gaza n'est plus une ville fortifiée. Wouh, les gars ! Gaza n'est plus une ville fortifiée. Vous avez compris ? Vous restez assis ou en attaque ? C'est ça qu'il est en train de dire. L'aide divine avait été donnée au peuple d'Israël pour que les murailles tombent à Jéricho. L'aide divine est donnée ici pour que les portes soient emmenées très très loin. Le peuple d'Israël ne fait pas de vagues, préfère son confort, surtout ne rien faire. Et Gaza est resté Gaza. Ils ont remis des portes, très certainement, et Gaza n'a pas été envahi. Dernier épisode, celui de Delila. Hyper important. Ça ne fait que parachever l'état d'esprit dans lequel est Israël par l'assimilation. Les intérêts de Dieu ne sont pas prioritaires. Le confort compte plus que les intérêts de Dieu. Et Samson est amoureux de Delila, c'est évident. Hein? Sont-ils fiancés ? On ne sait pas trop. Ils ne semblent pas mariés car il ne semble pas qu'il y ait d'intimité nuptiale. Parce que les Philistins qui se planquent dans là où les chambres. Donc, visiblement, il semble plutôt qu'ils soient dans cette relation où Samson refait sa vie. Son épouse a été brûlée par les Philistins. Hein? Delila semble habiter une partie de la vallée qui est sous contrôle, qui était une partie contrôle sous Israël et sous le contrôle des Philistins. Certainement encore sous le contrôle d'Israël, parce qu'on voit les Philistins monter, et c'est un peu la description générale de quand ils vont vers l'extérieur. Le nom de Delila laisse supposer qu'elle est juive. Samson, donc, refait sa vie après un épisode douloureux avec son épouse philistine. Mais en jouant avec le feu, avec Delila, surtout, c'est son manque de discernement des intentions de Dieu qui lui cause sa perte. D'ailleurs, son manque de discernement est un peu d'une manière plus forte montré. Ses yeux seront crevés quand il sera capturé. Il va offrir le secret de sa consécration et perdre tout ce qui y était associé. Son témoignage, sa représentation est entachée et il perd aussi sa force. Dans un dernier sursaut, l'Éternel lui donnera la force pour continuer sa mission et éliminera plus que jamais auparavant l'élite philistine. Ce qui est dramatique dans cet épisode, c'est qu'une juive trahit plusieurs fois l'envoyé de Dieu. Elle le met hors circuit par sa séduction. Voyez la finalité de l'assimilation au détriment des recommandations de l'Éternel. En prenant un peu de recul, on peut voir que Samson est un vrai homme de foi de l'Éternel au milieu des ennemis de l'Éternel. Certes les Philistins, mais aussi son propre peuple. Le peuple de l'Éternel qui, au fil de l'assimilation, a pris le parti de l'apparente tranquillité, du confort, au détriment des commandements de l'Éternel, l'inclusion de l'idolâtrie plutôt que justement se consacrer uniquement à l'Éternel. Si nous avions été du temps de Samson et que nous étions du peuple d'Israël, quelle aurait été notre attitude? Presque certainement, nous aurions fait comme eux. Mais au lieu de faire de la fiction, quelle est notre attitude du moment, maintenant? Priorité au confort? Ne pas faire de vagues? Ne pas déranger? Ou être trop bien rangé? Est-ce que l'un ou l'autre de ces aspects prendrait la priorité sur notre vie de foi? Sommes-nous hyper assimilés à la société de consommation, à l'hédonisme? J'aime bien ce terme, hédonisme. Évitement des souffrances et recherche du plaisir et du confort. Sommes-nous hyper assimilés aux idées qui nous entourent, aux mœurs qui nous entourent? C'est hyper simple de le savoir. Hyper simple. C'est Samson qui nous le montre. Les gestes de foi de Samson se voyaient. Est-ce que nos gestes de foi sont perceptibles? Est-ce que ce qui est le plus perceptible dans ma vie, ce sont nos accumulations hédonistes? Sommes-nous dans une foi active ou dans une peur et un confort actif? Et il n'y a pas de zone grise entre les deux. Peut-être que si. D'ailleurs, l'Apocalypse en parle. Et je vous invite, pour terminer, à lire ces quelques versets de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit de qui alors là? De Jésus, hein? De Christ. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien » et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est adressé à une église. Pas une église de l'Antiquité, hein. Une église qui était après Samson, hein, après l'œuvre de Christ. Ça nous interroge sur nos gestes de foi, notre vie de foi. Peut-être on se dit, ah oui, ça je ferai ça quand je ferai ça. Peut-être qu'on a des objets de foi en attente. Pourquoi les mettre en attente? Et pourquoi pas dire, cette semaine, je vais faire ceci ou cela. Montrer ma foi. Démontrer ma foi. Alors, ne pourfendez pas du philistin, hein, ne prenez pas des portes sur les épaules, ne brûlez pas les récoltes qu'il y a autour de chez vous, hein, c'est pas ça. Mais est-ce que notre vie de foi pourrait se voir cette semaine? Samson l'a démontré dans un peuple de Dieu qui ne voulait pas et autour qui ne le voulait pas. Mais il a fait l'œuvre de Dieu et l'Esprit était avec lui. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous percute, qui nous interroge. Seigneur, quelle tristesse, la période où Samson a dû agir pour toi. Merci Seigneur parce que tu l'as épaulé. Seigneur, donne-nous de ne pas être l'inverse du peuple de Dieu. C'est ton peuple, il faisait exactement l'inverse. Garde-nous, Seigneur, de vivre en Église et de faire l'inverse. Seigneur, que avec les moyens que tu nous donnes, Seigneur, tu nous donnes d'avoir le plaisir, le privilège de pouvoir te montrer au travers de notre vie. Seigneur, que tu nous donnes cette occasion, cette semaine, de pouvoir le faire d'une manière simple, à la hauteur de nos personnalités que tu as voulu justement pour qu'on te reflète. Merci Seigneur parce que tout comme tu as accompagné Samson, tu veux aussi nous accompagner. Samson était exceptionnellement habité de l'esprit et nous, nous sommes dans l'esprit. Seigneur, quel privilège, Seigneur, donne-nous de pouvoir en tirer profit pour toi. Amen.